Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Aujourd'hui, lecture d'une nouvelle très japonaise tirée du recueil L'éléphant s'évapore de Haruki Murakami. La nouvelle s'appelle sobrement La fenêtre. La fenêtre. Ce 1er mars. Cher, j'espère que vous allez bien. La température s'adoucit de jour en jour. Les rayons du soleil se font enfin printaniers. Grand merci pour votre lettre, reçue avec joie l'autre jour. J'ai beaucoup aimé le passage sur le rapport entre le steak et la noix de muscade. On sent là tout l'arôme de la vie. J'ai eu l'impression d'avoir sous les yeux une cuisine avec ses parfums chaleureux, d'entendre le bruit du couteau hachant les oignons. Un seul passage comme celui-ci suffit à rendre une lettre vivante. La lecture de la vôtre a suscité en moi une irrésistible envie de manger un steak. Et le soir même, je suis allée en commander un dans un restaurant du voisinage. En fait, ce restaurant proposait 8 sortes différentes de hamburgers. À la texane, à la californienne, à la hawaïenne, à la japonaise, etc. À la texane désignait un steak particulièrement énorme, sans plus. Gageons que les Texans seraient fort étonnés d'entendre ça. À la hawaïenne signifie garni d'une tranche d'ananas. À la californienne, je ne sais plus. Quant au hamburger à la japonaise, il était recouvert de radis noirs râpés. L'endroit était décoré avec élégance. Les serveuses, toutes plutôt mignonnes, portaient des mini-jupes. Cependant, je n'étais pas venue dans cet établissement pour en étudier la décoration intérieure, ni pour regarder les jambes des serveuses. Non. J'étais venue manger un steak. Un bon steak tout simple, pas à la ceci ni à la cela. C'est d'ailleurs ce que je m'empressais de dire à la serveuse. « Je veux juste un hamburger normal. »« Désolé, monsieur, mais ici nous n'avons que des hamburgers à la ceci ou à la cela. » Évidemment, je n'avais aucune raison de lui faire des reproches. Ce n'était pas elle qui rédigeait les menus et ce n'était pas par plaisir qu'elle portait un uniforme qui dévoilait le haut de ses cuisses chaque fois qu'elle débarrassait une table. Aussi commandai-je un hamburger à la hawaïenne en lui faisant un grand sourire. « Vous n'aurez qu'à enlever la tranche d'ananas, » me conseilla-t-elle aimablement. On vit vraiment dans un drôle de monde. Tout ce que je veux, c'est un bon steak ordinaire. Mais par moments, un désir aussi simple devient impossible à réaliser, sinon sous la forme d'un steak à la hawaïenne, sans ananas. À propos, le vôtre, il était normal, non ? Lire votre lettre m'a donné envie de manger un hamburger, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En comparaison, le passage sur les distributeurs automatiques de billets de chemin de fer me paraît un peu superficiel. Votre vision des choses est intéressante, mais la scène manque de vie pour le lecteur. N'essayez pas d'analyser trop finement. Écrire, finalement, c'est se contenter de ce qui est. Je vous attribue pour cette nouvelle lettre une note globale de 70. Votre style s'améliore peu à peu. Soyez persévérante et ne vous impatientez pas. Je me réjouis à l'avance de recevoir votre prochain courrier. J'espère que le printemps ne tardera plus. P.S. Merci beaucoup pour la boîte de gâteaux. Ils étaient délicieux. Cependant, la règle de notre société interdisant les envois personnels en dehors des lettres, je vous saurai gré d'éviter désormais ce genre d'aimable attention. Merci tout de même.
Un peu de lecture, eh bien c'est heureux.
Je gardais ce job pendant un an. J'avais 22 ans à l'époque. lié par un contrat à une absurde petite société du nom de Pen Society, située à Idibashi, j'étais payé 2000 yens par lettre et j'en recevais une trentaine par mois. Celle que vous venez de lire est un bon exemple de la façon dont je répondais. Vous aussi, vous pouvez écrire des lettres captivantes. Telle était la devise de la société. Moyennant un abonnement mensuel, les nouveaux adhérents pouvaient envoyer 4 lettres par mois à Pen Society et nous, les correcteurs chevronnés ou Pen Masters, étions chargés de renvoyer des corrections assorties de réflexions et de conseils divers, que de la lettre citée plus haut. J'étais étudiant en littérature et c'est après avoir lu une petite annonce de recrutement sur un panneau de la fac que je m'étais présenté à un entretien d'embauche. Pour différentes raisons, je venais de décider de prendre une année sabbatique dans mes études universitaires. Mes parents m'avaient informé qu'en conséquence, ils diminueraient dès l'année suivante le montant de l'aide qu'ils m'octroyaient. Brusquement, je me trouvais confronté au problème crucial de gagner ma vie. J'eus donc une entrevue avec mes futurs employeurs. On me fit rédiger quelques phrases et une semaine plus tard, j'étais embauché. Ensuite, pendant une semaine, des instructeurs me formèrent aux différentes techniques de correction, de conseils à nos adhérents et à diverses choses, pas particulièrement difficiles d'ailleurs. Les adhérents femmes se voyaient attribuer un pen master homme et vice-versa. J'étais responsable de 24 membres de la Pen Society, dont l'âge variait entre 14 et 53 ans. Mais en moyenne, ces femmes avaient entre 25 et 35 ans, c'est-à-dire que la majorité était plus âgée que moi. Le premier mois, je nageais dans la plus totale confusion. En effet, la plupart de mes clientes, déjà rompues à l'art épistolaire, écrivaient bien mieux que moi. De mon côté, je n'avais encore pratiquement jamais écrit de lettres dignes de ce nom de ma vie. Ce mois d'essai s'écoula, tant bien que mal. Non sans sueur froide de ma part, car j'étais persuadée que les adhérentes qui m'étaient confiées n'allaient pas tarder à exiger un autre pen master, ce qui était leur droit le plus absolu d'après les statuts de la Pen Society. Pourtant, à l'issue de ce premier mois, pas une voix ne s'était élevée pour manifester une quelconque insatisfaction quant à mes talents épistolaires. Au contraire, un de mes collègues, ma cote de faveur était au plus haut. Au bout des 3 mois suivants, je commençais à me persuader que le style des adhérentes s'améliorait grâce à mes conseils. C'était étrange. Elles semblaient me faire profondément confiance en tant que sœur. Lorsque je m'en rendis compte, cela m'encouragea à développer plus longuement et avec davantage de facilité mes critiques de style. Cela me semble évident quand j'y repense aujourd'hui. Mais en fait, toutes ces femmes se sentaient très seules. Tout ce qu'elles voulaient, au fond, c'était écrire à quelqu'un. Et qui plus est, à l'époque, je n'arrivais pas à croire pareille chose possible. Elles ne trouvaient personne à qui s'adresser. Les lettres d'admiration à un animateur de radio, ce n'était pas leur genre. Ce qu'elles voulaient, c'était une relation personnelle. Que ce fût sous forme de correction ou de critique. Je passais donc ainsi le début de ma vingtaine, évoluant comme une otarie unijambiste au milieu de ce havre chaleureuse. Les membres de la société m'envoyaient des lettres vraiment très diverses, il y en avait d'ennuyeuses, de drôles, de tristes. C'était il y a pas mal de temps et malheureusement, je n'étais autorisée à garder aucune de ces lettres. Le règlement exigeait que nous les rendions toutes à la société. Si bien que je ne peux me rappeler concrètement leur contenu, mais elles débordaient de vie. Elles étaient bourrées de descriptions des plus menus faits de leur existence, aussi bien que d'événements importants. Pourtant, les messages que ces femmes m'adressaient semblaient étrangement irréels à l'étudiant de 21 ou 22 ans que j'étais alors. La plupart du temps, leurs lettres me semblaient complètement dénuées de réalité, dans d'autres cas, complètement absurdes. Ce n'était pas seulement mon manque d'expérience de la vie qui me faisait ressentir les choses ainsi. Je le comprends mieux aujourd'hui. La plupart du temps, quand on écrit, la réalité des choses ne se transmet pas, mais se construit. C'est de là que naît le sens. Bien entendu, j'ignorais cela alors, et ces femmes l'ignoraient aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout ce qu'elle décrivait dans leurs lettres avait à mes yeux une étrange platitude. Le jour où je décidais de quitter ce poste, toutes les adhérentes que je guidais m'exprimèrent leurs regrets. Moi aussi, en un sens, bien qu'à franchement parler, je fusse un peu écœurée de cette tâche consistant à rédiger sans cesse du courrier, j'avais des regrets. Il me semblait que je n'aurais plus jamais l'occasion de voir autant de gens se dévoiler devant moi avec une telle sincérité. En tout cas, pour en revenir au hamburger, j'eus l'occasion d'en déguster un bien réel, préparé par les soins de mon élève, celle qui m'avait envoyé ma première lettre à corriger. Elle avait 32 ans, pas d'enfant, et un mari qui travaillait pour l'une des plus célèbres grandes compagnies japonaises. Dans ma dernière lettre, je lui avais annoncé mon départ à la fin du mois, à mon grand regret, et en réponse, elle m'avait invité à déjeuner. Elle me préparerait un hamburger, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, m'écrivait-elle. C'était parfaitement contraire au règlement de la société, mais je résolus, sans l'ombre d'une hésitation, d'accepter. Rien ne saurait faire obstacle à la curiosité d'un jeune homme de 22 ans. Son immeuble était situé face à la ligne Odakyu. Un appartement bien rangé, convenant parfaitement à un couple sans enfants. Les meubles, l'éclairage, ses vêtements, rien n'était vraiment de qualité supérieure, mais tout témoignait d'un goût certain. Je lui trouvais l'air bien plus jeune que son âge. Elle s'étonna de me voir plus jeune que ce à quoi elle s'attendait. Elle m'avait toujours cru plus âgée qu'elle. À la Pen Society, nous avions une règle de base. Un Pen Master ne devait jamais révéler son âge. Nous nous étonnâmes donc réciproquement, ce qui eut pour effet de briser rapidement la glace. Comme deux passagers qui auraient raté le même train, rapprochés par les circonstances, nous mangeâmes des hamburgers, bûmes du café. À propos de train, on voyait distinctement la ligne de chemin de fer par la fenêtre de son appartement, située au deuxième étage. Ce jour-là, il faisait très beau, et sur les balcons des appartements voisins, on pouvait voir des matelas mis à aérer, des chemises en train de sécher. De temps en temps, on entendait quelqu'un taper sur un matelas. Aujourd'hui encore, je me souviens de ce son. C'était un bruit étrangement proche. Le hamburger était un délice, l'assaisonnement parfait, la viande juteuse à souhait sous sa croûte grillée à point, la sauce idéale. Sincèrement, lui dis-je, je ne pourrais affirmer que c'est le meilleur hamburger que j'ai mangé de ma vie, mais cela faisait vraiment très très longtemps que je n'en avais pas savouré un pareil. Elle fut ravie du compliment. Après le café, nous nous mîmes à parler un peu de nos vies respectives, tout en écoutant un disque de Burt Bacharach. En fait, j'étais trop jeune pour avoir grand-chose à raconter, et ce fut surtout elle qui parla. Quand elle était étudiante, me dit-elle, elle voulait devenir écrivain. Elle adorait Françoise Sagan, dont elle me parla longuement. Elle aimait particulièrement Aimez-vous Brahms. Moi-même, je ne détestais pas Sagan, en tout cas, je ne la trouvais pas aussi ordinaire que certains le prétendaient. Il n'y a pas de loi obligeant tous les romanciers à écrire comme Henry Miller ou Jean Genet. « Mais moi, je suis incapable d'écrire, » affirma-t-elle. « Il n'est pas trop tard, » dis-je. « Non, je le sais, je sais que j'en suis incapable. D'ailleurs, c'est vous qui me l'avez appris, » fit-elle en riant. « Je m'en suis rendu compte. » En vous écrivant toutes ces lettres, je n'ai pas cette force en moi. Je rougis en l'écoutant. Cela ne m'arrive plus maintenant, mais à 20 ans, je rougissais facilement. Pourtant, il y a beaucoup de sincérité dans ce que vous écrivez, dis-je. Elle ne répondit rien. Elle avait un léger sourire au coin des lèvres. Un tout petit sourire. En tout cas, votre lettre m'a drôlement donné envie de manger un hamburger. Vous deviez avoir faim à ce moment-là, dit-elle doucement. Oui, peut-être bien. Un train passa sous la fenêtre en pétaradant. Quand ma montre indiqua 5 heures, je lui dis que j'allais prendre congé. Vous avez sûrement affaire. Vous devez sans doute préparer le dîner de votre mari avant son retour. Oh, il rentre toujours très tard, dit-elle, la joue appuyée sur sa main. Il ne sera pas là avant minuit. Il doit être très occupé. Oui, dit-elle. Puis il y eut un instant de silence. Je crois vous en avoir parlé dans une de mes lettres, mais j'ai du mal à communiquer avec mon mari, vous savez. Il ne me comprend pas. Quand je discute avec lui, j'ai souvent l'impression de parler une langue étrangère. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je ne comprenais pas, à l'époque, comment on peut continuer à vivre avec quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on ressent. Mais ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Et effectivement, d'après sa voix, cela ne semblait pas grave. Merci d'avoir correspondu avec moi si longtemps. J'en ai été très heureuse. Personnellement, vous écrire toutes ces lettres m'a beaucoup aidée, dit-elle. Moi aussi, cela m'a fait plaisir, répondis-je. Mais, à vrai dire, je ne me rappelais plus très bien quel genre de lettres elle m'avait écrites, ni ce qu'elle y exprimait. Elle resta un moment silencieuse, le regard fixé sur la pendule murale, comme si elle vérifiait la façon dont le temps s'écoulait. Qu'avez-vous l'intention de faire après vos études ? Demanda-t-elle. Je répondis que je n'étais pas encore très décidée, je ne savais pas bien ce que je voulais faire. Elle sourit à nouveau. À mon avis, vous devriez faire quelque chose en rapport avec l'écriture. Les lettres que vous m'écriviez pour formuler vos critiques étaient merveilleuses. Je les attendais toujours avec impatience, vraiment. Ce n'est pas de la flatterie. Vous les écriviez peut-être simplement pour vous acquitter d'un travail, mais moi, dans ces lettres, j'ai senti une sensibilité vraie. Je les ai toutes gardées. De temps en temps, je les sors pour les relire. Merci, dis-je, et merci aussi pour le hamburger. 10 ans se sont écoulés depuis cette histoire. Mais chaque fois que je passe en train à proximité de son immeuble, sur la ligne Odakyu, je me rappelle ce hamburger croustillant. Je regarde les immeubles qui longent la ligne et je me demande quelle fenêtre était la sienne. Je me rappelle le paysage que l'on voyait par sa fenêtre et j'essaie de retrouver de quel côté il se situait, mais je n'y arrive pas. Peut-être qu'elle n'habite plus là. Mais si jamais elle y habite toujours, je l'imagine seule derrière sa fenêtre en train d'écouter éternellement ce disque de Burt Bacharach. Je me demande si j'aurais dû coucher avec elle, alors. C'est le sujet de ce texte, en fait. J'ignore la réponse. Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Après toutes ces années, toutes ces expériences accumulées, il reste tant de choses que j'ignore. Simplement, depuis la fenêtre du train, je lève le regard vers ce qui me semble être la fenêtre de son appartement. Il y a des jours où n'importe quelle fenêtre de cet immeuble pourrait être la sienne. Et d'autres fois, pas une seule n'y ressemble. Cet immeuble a bien trop de fenêtres, de toute façon. Chers auditeurs, merci. Je vous retrouve à la rentrée avec un portrait de Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À bientôt sur Radio B.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words. Full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire que une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words have been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.